La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.
Alors, bonjour à tous et re-bonjour à certains. Je vais commencer par vous poser une question assez simple. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous indiquer quelle est votre pratique dans l'éducation aux médias, s'il vous plaît ?
Bonjour, donc moi je suis Laurence Janin, coordonnatrice du CLEMI au rectorat de Toulouse. Donc le CLEMI, c'est le centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information, organisme de l'éducation nationale et donc à Toulouse qui dépend du rectorat. Et le but, c'est de développer, d'impulser et d'aider les projets d'éducation aux médias dans les établissements, à la fois auprès des enseignants, donc en les formant notamment, et auprès des élèves également.
Pascal Roynet, je suis tout d'abord chef d'établissement sur Mazamet, dans un ensemble scolaire d'environ un peu plus 1000 élèves. Et nous avons au sein de cet établissement la chance d'avoir une radio associative qui s'appelle Plus FM, qui a été fondée en 1988. C'est à ce titre que je suis donc invité, et je remercie les organisateurs de nous avoir donné la possibilité de participer, puisque cette radio en milieu scolaire est principalement destinée aux élèves. On travaille d'ailleurs avec le soutien, du moins l'aide du CLEMI et les documents fournis par le CLEMI, qui sont tout à fait intéressants. Et donc nous avons une radio qui fonctionne avec une fréquence attribuée par le CSA et qui existe depuis 1988.
Laure Méravi, journaliste et responsable du point information jeunesse de Radio Clapas. Clapas, ça fait partie des plus anciennes radios libres de France et c'est la seule radio labellisée Point Information Jeunesse en France. Donc un pige pour synthétiser. C'est un outil d'information par les pairs. Donc normalement, on va dans un Point Information Jeunesse pour se renseigner avec de la documentation sur plein de thématiques, dont les métiers, la culture, la santé, les loisirs. L'idée dans un Point Information Jeunesse radio, c'est travailler ces thématiques avec des jeunes. Donc ma pratique de journaliste au sein de la radio, c'est de former des jeunes à l'information. Donc c'est eux qui préparent des émissions, qui enregistrent, qui se forment aussi au montage. Ça va dans le lien avec l'éducation aux médias. On peut aussi truquer du son, transformer de l'information par le biais du montage. Et j'aime bien expliquer à des jeunes que c'est pas le monopole de la vidéo ou de la photo, par exemple. Et donc, on est vraiment sur de la construction de l'information. Je travaille aussi en lien avec l'éducation nationale, mais aussi l'éducation populaire. Et mon public jeune, à moi, pour le PIGE, c'est vrai que je travaille avec des écoles, mais beaucoup avec des clubs ados, des étudiants ou des jeunes adultes. Voilà, c'est là que se fait aussi la passerelle entre l'éducation nationale que je vois avec des petits, puis après, plus grands, avec des étudiants.
Moi, je m'appelle Eric, je suis en classe de terminale vente et je suis membre du conseil académique de la ville lycéenne. Et je poursuis avec la question, alors qu'on attend que l'auditorat de la radio ne cesse de vieillir et que les jeunes aujourd'hui préfèrent plus ou moins les réseaux sociaux et YouTube, comment recréer du lien entre les jeunes et la radio ?
La démarche que nous avons au sein de l'établissement, avec les professeurs qui sont tous très impliqués, une grande partie est très impliquée, c'est d'essayer justement de faire découvrir le média. La principale problématique que l'on a, c'est qu'effectivement, beaucoup de jeunes n'écoutent pas ou n'écoutent plus la radio, connaissent pas vraiment, ou connaissent pas très bien le média. Donc l'idée, c'est de repartir sur l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce que la radio, comment elle fonctionne. La chance qu'on a, c'est qu'on a cette radio au sein de l'établissement, avec un professionnel, M. Calabrese, qui est dans la salle, et donc qui, avec les enseignants, vont monter des projets. Et on part du projet, donc de la conception du projet, vers j'allais dire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut traiter, de quoi veut-on parler. Donc là ensuite, les enseignants prennent le projet en main, le travaillent jusqu'à sa réalisation finale et le rendu qui est l'intervention à la radio. Donc par ce biais-là, on peut susciter bien entendu de l'intérêt, puisque les enfants écoutent bien évidemment le travail qu'ils ont réalisé, et les familles également. Donc ça relance d'une certaine façon, l'attrait pour le média. Voilà comment nous procédons.
C'est vrai que la diffusion comme motivation pour les jeunes pour écouter leur propre production quand ils fabriquent une émission, que ce soit en classe, en centre de loisirs, c'est quelque chose d'hyper important. Du coup, on forme nos futurs auditeurs. L'idée, c'est pas forcément qu'ils écoutent notre radio à nous, mais qu'ils apprennent à savoir comment est produite l'information et qu'ils écoutent l'ensemble des radios qui les intéressent. Pour refaire le lien aussi avec les réseaux sociaux, c'est vrai que moi j'aime bien travailler sur de la médiation culturelle et j'ai beaucoup d'enfants qui aiment travailler des émissions musicales. Et je les fais bosser sur l'idée de je vais partager mes goûts musicaux avec mes copains et je vais leur faire écouter mes propres goûts musicaux. Et du coup, je leur dis, ben, on va utiliser vos YouTube et vous allez faire des recherches sur le goût musicaux de chacun de vos amis. Et donc, ça permet d'élargir un peu l'algorithme de YouTube et ils se rendent compte que ça transforme en fait les propositions d'écoute de YouTube puisqu'ils ont accès au monde entier et que globalement ils ont trois pauvres morceaux qu'ils écoutent en boucle avec des sollicitations un peu limitées, là où les radios associatives offrent énormément de propositions. Et l'idée c'est ça, moi j'aime bien les faire réfléchir sur le partage des goûts musicaux et pas opposer réseaux sociaux et puis médias traditionnels, mais expliquer qu'on peut découvrir de la musique sur les réseaux sociaux et pourquoi pas avoir envie de les partager sur un support radio. Et ça donne des choses qui peuvent être super originales.
Mais moi, je rebondirais sur ces deux choses. En fait, c'est effectivement déjà la découverte de la radio, c'est-à-dire c'est vraiment un univers de sons que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est vrai que découvrir la manière dont un habillage, par exemple, transforme, en tout cas habille, on va dire, le message et le rend beaucoup plus captivant. Quand on le fait en classe, c'est clair que ça suscite tout de suite un intérêt complètement différent, où la radio n'est plus, oui, c'est ça, le média, on va dire, des vieux, mais quelque chose de totalement intéressant, jeune, accessible et très ludique, finalement. Donc il y a cette première chose. Et puis la deuxième chose, côté écoute, hein, si on prend le côté les jeunes comme auditeurs, on en a parlé un peu ce matin, je pense que les nouveaux formats sont très attractifs, sont déjà beaucoup plus tournés vers l'écoute à la demande. Voilà, je pense que maintenant, le réflexe d'allumer le poste de radio, c'est vrai que c'est quelque chose qui vieillit énormément, et l'écoute possible, quand on le veut sur des supports comme le téléphone mobile, permet déjà de multiplier les modes d'écoute et les formats. Et que maintenant, en podcast, on a des choses, par exemple, au-delà de la musique que les jeunes écoutent encore, je pense, du moins via les réseaux sociaux ou via l'écoute à la demande, on a aussi des formats qui sont très, très différents et qui sortent un petit peu des clous et du schéma de la radio, entre guillemets, ancienne mode.
Très bien, merci beaucoup pour ces belles réponses. Maintenant, je vais vous poser une question qui a l'air assez simple, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre par la radio ?
Tout, en fait. On pourra en parler des heures. Donc, de mon côté, en fait, au Clémy, ce qu'on essaye vraiment de montrer à travers la radio, c'est bien sûr les aspects éducation, média, l'information. Forcément, on est là aussi pour ça. Mais donc, l'éducation, média, l'information, vous compléterez ce que je dis, je pense. Hein, mais à travers la radio, c'est notamment, moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est au-delà du fait de traiter des sujets, ce que l'on pourrait faire avec n'importe quel autre média, hein, que ce soit en produisant des articles écrits ou autres. Donc vérifier ses sources, etc., ça c'est une chose, mais la spécificité de la radio, je trouve que c'est vraiment la manière d'habiller le message à travers les sons qui permettent de comprendre comment, selon la façon dont on présente un message, il peut être perçu de façon complètement différente. Et ça, c'est utile à la fois comme auditeur, de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on essaye de me dire, et à la fois comme producteur, comment je vais faire pour que mon message soit accessible et en tout cas audible et même intéressant pour ma cible. Il y a déjà ça. Et cette histoire de construction de l'information, c'est très, très important. Ce qu'on peut apprendre aussi, c'est des compétences, on va dire, bah, alors là, dans l'enseignement, ça sert énormément sur la voix, hein, travailler sa voix, apprendre à s'adresser à un auditoire. Enfin, on le voit, l'oral est de plus en plus privilégié. Et la radio permet de le faire, en plus, de manière, moi, je trouve, plus ludique. Et ce qu'on remarque aussi, c'est le côté projet, c'est-à-dire c'est très motivant de travailler sur des projets radio, je pense que vous le direz aussi. On est en équipe, on travaille ensemble, on s'écoute, c'est des tas de compétences dites, si je prends un langage un petit peu éducation, hein, citoyenne et transversale, qui permettent vraiment d'apprendre énormément de choses.
J'aimerais ajouter quelque chose sur la transversalité. Moi, j'ai un super souvenir de radio. On a travaillé avec à Radio Clapas à Montpellier, avec les Internationales de la guitare. Donc, c'est un festival international de la guitare, comme son nom l'indique, avec le lycée de Linel. On a travaillé avec trois profs différents. Le prof de musique sur le blues, la prof d'anglais sur la traduction des morceaux de blues et le prof d'histoire géo sur l'esclavage. Et on a fait une émission sur le blues aux sources du Mississippi. Ça, typiquement, c'est comment apprendre soi-même et faire partager quelque chose qu'on a appris. On est dans une logique d'information et de transmission d'information. Et c'est un super outil, du coup, de partage d'informations et d'éducation. C'est un super outil éducatif. À la radio aussi, on a un enseignant, un prof d'histoire géo qui a utilisé la radio comme outil de continuité éducative pendant le premier confinement et qui a proposé à ses élèves des rendez-vous réguliers à l'antenne où en fait il faisait ses cours à la radio. Alors ça prenait la forme de capsule, hein, ça ne correspond pas à l'équivalent d'une heure de cours en version enregistrée en direct. Il a vraiment fait un travail de réécriture de ses cours sur des formats assez courts. Et c'est quelque chose qui a été innovant, reconnu et qu'on aimerait déployer sur toutes les matières, puisque là, il s'agissait de cours d'histoire géo pour un niveau collège. Mais c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait adapté et adaptable à d'autres matières sur l'ensemble du collège ou du lycée, par exemple.
À notre niveau, effectivement, il y a un premier travail qui est effectué par les enseignants qui interviennent à certains moments pour, par exemple, la professeure de philosophie faire des spots bien précis sur certains thèmes qui sont enregistrés et diffusés. Ce qu'on peut dire également, pour être un peu plus technique, c'est que les compétences du socle commun, alors je rentre dans le jargon éducation nationale, je suis désolé, je ne vais pas développer, mais tout simplement, ce sont des compétences qui sont à valider par les élèves en fin de troisième, et ces compétences du socle commun sont travaillées par l'intermédiaire de l'utilisation du média radio. Madame Iribarine, qui est en face de moi, qui est professeure au sein de l'établissement et qui participe activement à la vie de la radio au sein de l'établissement, justement, pour en témoigner plus tard. Elle pourra intervenir. Donc effectivement, il y a de multiples façons de faire travailler les élèves et de les amener justement à découvrir et à s'instruire.
Je compléterai juste en insistant aussi sur le côté production. C'est vrai, alors on peut le faire avec d'autres médias, mais dans tous les cas, le fait de produire, c'est se confronter aussi à des tas de choses très importantes, de se dire déjà à qui je m'adresse, mais qu'est-ce que je peux dire, de quelle façon, quels sont mes droits, mes devoirs en termes de droit d'expression, de liberté d'expression, et ça permet de construire énormément de choses, et c'est très très important et très très riche.
C'est avec l'accès à l'information de plus en plus facile et abondante, éduquer aux médias, c'est permettre aux jeunes, aux lycéens et aux jeunes en général, de comprendre, décoder avec un sens critique les différents médias et leur contenu. Donc la question, comment utiliser la radio dans les établissements scolaires pour éduquer aux médias ?
Eh bien, on essaye de le faire au quotidien, puisqu'on a la chance d'avoir le média au sein de l'établissement. Donc, il y a des projets, si vous voulez, qui sont pensés, réfléchis par les enseignants en début d'année, en lien avec, bien sûr, le responsable de la radio. Et on essaye ensuite de faire en sorte que les enfants, les élèves puissent monter ces projets, les produire et, bien sûr, s'exprimer, puisque c'est quand même l'objectif. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine. Donc on a une petite radio, donc il y a un peu plus de 1000 élèves, c'est compliqué de pouvoir faire passer tout le monde. Mais on a quand même dans la scolarité, les élèves durant leur scolarité au sein du collège ou du lycée, la possibilité d'intervenir à la radio au moins une ou deux fois en fonction des projets qui sont menés sur, les différents niveaux. Donc ça c'est un aspect, me semble-t-il, assez positif.
Nous on parle beaucoup de pratiques numériques des jeunes, et c'est souvent l'objet de débats que choisissent les jeunes pour s'exprimer quand ils veulent travailler l'outil radio, pour s'exprimer sous la forme d'une table ronde, par exemple. Et à Clapas, on travaille beaucoup en partenariat, c'est-à-dire qu'on travaille avec le club de la presse Occitanie, où on intervient en binôme journaliste et expert en réseaux sociaux sur un projet qui s'appelle Esprit Critique, où on intervient en classe, collège, lycée, mais aussi association de parents, par exemple, où on fait de la prévention sur les réseaux sociaux et on explique aux jeunes les outils de vérification des sources sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant en tant que journaliste d'expliquer comment est produite l'information. Moi, dans ma pratique de point information jeunesse, je fais passer tous les jeunes par l'initiation au montage, parce que c'est à cette étape-là qu'on peut déconstruire aussi une grosse partie de l'information. On travaille aussi en lien avec la Maison des adolescents de l'Hérault, où je co-anime un dispositif qui s'appelle les promeneurs du net. Il s'agit d'une veille sur les réseaux sociaux. C'est une présence éducative avec un profil Facebook, mais d'autres réseaux sociaux sont possibles, et où on répond à des problématiques de jeunes. C'est comme un animateur, un éducateur, c'est un professionnel de la jeunesse qui arpente la rue numérique et qui va au contact des jeunes pour faire de la prévention, notamment sur la vérification des fakes. Et c'est vrai que nous, à la radio, de par cette double casquette de journaliste et d'animatrice du point information jeunesse, ça me permet de travailler l'éducation aux médias. Moi, j'estime que c'est ma spécialité, voilà, cette thématique-là.
C'est vrai qu'au Clémy, on insiste beaucoup, ben, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais sur vraiment la construction de l'information du message. Et c'est vrai que en radio, ce qui est vraiment intéressant, c'est de, à la fois en tant que, c'est déjà de faire écouter, comme on disait, donc en tant qu'auditeur, de former de futurs auditeurs qui arriveront à décrypter justement la manière dont le message passe. En radio, le ton, la voix, l'habillage donnent une couleur complètement différente et donnent une écoute complètement différente. Donc comprendre déjà que tout message en fait est construit, ça n'enlève pas la spontanéité quand même évidemment, mais et en tant que producteur, après c'est soi-même de se confronter à ça. Et faire des émissions radio avec les élèves, c'est effectivement, leur permet déjà de s'exprimer, ça c'est déjà énorme. C'est aussi leur permettre, ce qu'ils pourraient faire par ailleurs, mais c'est une occasion de plus, de réfléchir à ce qu'on va dire, à la vérification des sources notamment, et à la manière dont on va traiter un sujet, toute cette notion d'angle, de journalisme, etc. Et puis ensuite, c'est s'adapter aussi à un public, c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on observe aussi, ça je pense que vous le constatez sans doute même plus que moi, c'est qu'un projet radio dans un établissement, ça donne vraiment, ça fait vivre l'établissement. Donc il y a aussi toute une notion de vivre ensemble, de climat, qui fait que la radio, je pense, est un très bon média par rapport à ça.
Tout à fait d'accord. La radio est d'ailleurs située au centre de l'établissement. Donc c'est un lieu clé. Alors c'est, il n'y a pas de jeu de mots dans ce que je suis en train de dire, puisque le clé, c'était le nom initial de la radio de l'établissement, qui signifiait collège, lycée, école. Voilà. Donc c'est un lieu clé qui se situe au centre de l'établissement, qui est accessible à tous les élèves, que ce soit bien sûr sur le temps de la pause méridienne, que ce soit sur d'autres moments bien sûr avec les enseignants. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir accès à ce lieu en permanence, quand ils ont la possibilité, bien sûr, qu'ils ne sont pas en cours, ça va de soi, mais pour pouvoir travailler, monter leur projet. Et on a également, je tiens à le préciser, des élèves qui sont des acteurs bénévoles de la radio, puisqu'ils ils participent quasi quotidiennement au fonctionnement de la radio, en arrivant plus tôt pour l'éphéméride, qui pour faire l'horoscope éventuellement, même si on ne le fait pas trop, non. Pardon, on ne fait pas l'horoscope. Mais bon, en fait, faire participer les élèves le plus régulièrement possible, c'est un aspect important.
Et maintenant, messieurs, dames, les étudiants de l'Université Toulouse-Capitole ont une question à vous poser.
Bonjour, Nina Puzna. Alors, on vient de parler des bénéfices de l'éducation aux médias en termes d'identification de l'information, mais quels sont, selon vous, les apports sociaux de la pratique de la radio, notamment envers les publics jeunes et également les publics spécifiques?
Moi, je pense à la valorisation des jeunes. En fait, il y a peu d'espace de parole médiatique pour les jeunes. Donc déjà, ils n'ont même pas l'habitude qu'on leur donne le choix. En fait, c'est un peu compliqué quand on les laisse libres de choisir un sujet. Il y a un petit temps de silence qui s'éternise un peu parce que on n'a pas l'habitude de donner son avis sur quelque chose qu'on a envie de faire ou un sujet sur lequel s'exprimer. Donc on peut passer des fois plus de temps à choisir un sujet que pour préparer une interview. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Mais il y a l'idée de la valorisation personnelle. Et je trouve que les jeunes, quand ils ont l'objectif de la diffusion, quand on leur explique que leur parole va être diffusée, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est pour ça aussi que c'est un super outil. C'est que ça responsabilise énormément. Ça exclut personne aussi, dans le sens, si on est bienveillant et qu'on travaille toujours sur une logique de partenariat avec des éducateurs, des enseignants qui connaissent leurs élèves ou leurs jeunes et qui les voient régulièrement, si on est bienveillant, on peut trouver une place à chacun. Celui qui va avoir plutôt envie de chercher les morceaux de musique s'il est timide et qu'il ne s'exprime pas lui-même au micro, quelqu'un qui va avoir la fibre technique et qui va aimer faire du montage là où d'autres n'ont pas du tout envie de toucher à un ordinateur. Donc on est voilà, sur des compétences qui ne sont pas forcément des compétences scolaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très surprenant pour certains enseignants, des fois, qui découvrent différemment des élèves qui peuvent être très en difficulté sur certains savoirs scolaires et qui ont des savoir-faire qui ne sont pas valorisés par l'éducation nationale. Il y a le côté aussi vocation qui peut être bien. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en radio et je vois des jeunes aujourd'hui qui m'envoient des copies de leur première carte de presse. Alors l'idée, c'est pas de faire de futurs journalistes parce qu'on fait une activité radio. Mais je trouve que ça fait partie des biais positifs du projet, de voir le côté, ce côté-là, vocation. Il y a aussi la transmission de savoir. Moi, j'ai travaillé sur un projet en français, en arabe, sur un projet intergénérationnel qui s'appelle Mots croisés, où on recueille les souvenirs de jeunesse des anciens. Et on a travaillé avec des vieux travailleurs migrants. Les souvenirs de jeunesse se reviennent dans la langue maternelle et on s'est retrouvé avec des messieurs qui parlaient en arabe de leurs souvenirs de jeunesse. Je me suis retrouvée un peu perdue face à un contenu que je ne maîtrisais pas. Et c'est les enfants qui ont travaillé la traduction en temps réel, en fait. Et j'ai trouvé ce moment super magique. Et après, avec l'outil radio, de superposer la langue originale du monsieur, la personne âgée qui parle en arabe, le jeune qui traduit en version abrégée en français, c'est super joli. Et ça responsabilise aussi l'élève dans sa culture, ce qu'il peut transmettre à l'autre, le rôle de passeur, donc de média au sens propre du terme. Ça, pour moi, ça fait partie des choses très jolies que permet la radio.
Oui, en fait, c'est vrai que ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'en radio, plus même que dans tout autre mode de production, il y a vraiment une place pour tout le monde, hein, c'est vrai. Celui qui n'a pas envie de parler trouvera peut-être sa place à la technique ou autrement. Donc on a ça, et pour notamment la radio, c'est un très bon outil pour ce qu'on appelle des projets un peu en remédiation, c'est-à-dire pour remettre un peu sur les rails parfois des jeunes qui ont du mal avec des systèmes ou des disciplines classiques, et notamment par rapport à tout ce qui est lire et écrire. Voilà. En radio, même si tout est écrit, on dépasse quand même ce côté, l'écriture ne se voit, enfin elle s'entend, ça c'est une évidence, mais elle ne se voit pas. Donc voilà, pour ce côté un peu diktat de l'écrit pour certains, ça leur permet de se libérer et de passer vraiment, même si c'est préparé avant, au côté à la voix, à l'oral, et on observe effectivement des jeunes qui se libèrent complètement contre toute attente, ne serait-ce qu'en étant juste devant un micro, en train de valoriser leur voix, sans passer par forcément une copie, hein, tout simplement, et un papier écrit. Enfin, ils l'ont, mais ça ne se voit pas.
Sur des difficultés scolaires, juste aussi quelque chose, sur des élèves qui ont des troubles du comportement, par exemple. Et eh bien, quand c'est des jeunes qu'on mobilise sur tenir le micro en école primaire, par exemple, et eh bien, du coup, ça canalise l'enfant qui se trouve occupé. Et bizarrement, l'élève qui est difficile à canaliser sur une heure de cours, et eh bien, si lui, il s'occupe de tenir le micro sur l'heure, en fait, il va percevoir son heure de cours différemment, par exemple. Sur des élèves qui sont bègues, quand ils voient qu'au moment du montage, on peut couper une partie du bégaiement, ben naturellement, la fois suivante, quand ils vont parler, ben, il va y avoir un effort d'élocution qui font qu'ils bégaient moins, par exemple. Moi, ça, c'est des choses que j'ai constatées, même sur des élèves qui sont très proches, des fois, de l'autisme, qui ont des gros soucis pour se contenir physiquement. Moi, j'ai travaillé avec des éducateurs en ITEP. Alors là, ça demande de travailler avec un très petit comité, avec des éducateurs. Voilà, on n'est pas magicien. Mais il y a des jolies surprises aussi sur certaines capacités d'enfants dont on pense qu'ils ne sont pas capables d'eux et qui sont tout à fait capables d'eux. Voilà.
Alors, pour prendre une formule, je dirais la radio, ce n'est pas uniquement parler dans le poste, c'est travailler avant, c'est structurer une pensée, c'est organiser des idées. Et tout ça, ça correspond à des compétences indispensables dans un parcours de collégien ou de lycéen. Donc en fait, c'est lier l'utile à l'agréable. Et par ce biais, effectivement, certains enfants en difficulté, ou d'autres, mais surtout par l'intermédiaire d'un travail d'équipe managé par les enseignants et le responsable de la radio, on arrive à des résultats parfois très surprenants, et effectivement de très très bonne qualité. Donc ça mobilise, ça dynamise, ça donne un esprit également de corps à un groupe qui travaille ensemble, qui va échanger, chacun amenant ses compétences, vous l'avez dit, et ça c'est aussi un aspect important, c'est-à-dire que c'est une équipe et chacun amène ce qu'il sait, ce qu'il est. Là où il peut avoir des compétences, bien, il va les exploiter. Certains qui n'ont pas les mêmes compétences vont pouvoir être valorisés à d'autres niveaux. Et tout ça, c'est très intéressant au niveau de la relation et de l'esprit de groupe d'une classe. Donc c'est un aspect qui est excessivement positif.
Merci pour vos réponses. Et maintenant, chers amis du public, la parole vous revient si vous avez des questions, des remarques. Oui, monsieur.
Bonjour, Quentin, coordinateur de Radio Larzac. Je travaille par ailleurs sur la mise en place d'un média scolaire. Du coup, une première question qui s'adresse plutôt au Clémy. Comment soutenez-vous ce genre d'action? Et ma deuxième question s'adresse à Plus FM. Comment s'intègre ce média dans la vie de l'établissement et aussi dans la pédagogie?
Alors, comment on soutient ce genre d'action? Alors, j'ai envie de dire, hélas, pas financièrement, tu prends au Clémy. Voilà, ça c'est fait. Non, par contre, on les soutient en... déjà, alors, des fois, ça se fait tout seul sur le terrain. Mais quand ce n'est pas le cas, on essaye de mettre en contact établissements, enseignants et radio locales. Bon, quand c'est pas fait, parce que souvent, sur le terrain, les choses s'organisent. Et aussi, au Clémy, on produit beaucoup de ressources. Juste, alors on en parlait justement avec la collègue pour essayer de faire en sorte que les enseignants et éventuellement leurs partenaires parlent un peu le même langage. En gros, dire faire de la radio, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est pas juste mettre des élèves enfin, ou des jeunes devant un micro. Comme le disait monsieur, ça se construit avant, c'est tout un travail. Et d'ailleurs, l'idée, c'est d'acquérir un certain nombre de compétences tout en y prenant plaisir. Donc, au Clémy, on a beaucoup de ressources autour de la radio. Donc, on a un site national avec une rubrique spécifique « Créer sa web radio ». Et sur le Clémy Toulouse, bon, on a aussi des ressources là-dessus pour faire en sorte, pour aider dans les projets, tout simplement, en termes de construction du projet. Et puis, bon, moi, en l'occurrence, quand on me pose des questions, qu'on me demande éventuellement d'épauler un projet, je le fais avec plaisir. Hein. Mais ce n'est pas matériel.
Alors, pour répondre à la question, je vais laisser la parole à Madame Iribarine, qui est derrière moi, puisqu'elle pratique au quotidien ce genre de choses en tant qu'enseignante, et je pense qu'elle sera mieux placée que moi pour répondre.
Donc, bonjour à tous. Alors, en tant qu'enseignante, effectivement, la radio est un outil vraiment privilégié. Donc, moi, je suis professeure de français. Donc, la radio, je vais m'en servir à différents moments de l'année. Je vais m'en servir pour travailler l'oral, tout d'abord, avec mes élèves. Parce qu'effectivement, c'est tout un programme que de travailler l'oral. Savoir s'exprimer, savoir faire repasser des intentions, des émotions par la voix. C'est plus facile lorsqu'on a l'outil radio, puisque justement à la radio, il n'y a que la voix, il n'y a pas l'image. Donc ça, c'est déjà un premier travail que l'on mène dans nos séances. Et ensuite, ponctuellement dans l'année, on va mener des projets, on va intégrer la radio. Donc ça peut être créer un journal d'information en langue anglaise, par exemple. On a beaucoup de projets, on peut raconter des histoires aussi à la radio, créer des contes, les mettre en son, justement, donc augmenter la lecture un petit peu. Donc voilà, ce sont des projets que l'on construit tout au long de l'année, en lien avec nos programmes, et ça nous permet également de travailler nos compétences et de les valider.
D'autres remarques dans le public, peut-être, d'autres questions à poser?
Bonjour, Éric Tessier, donc fondateur, ex-président et aujourd'hui directeur d'antenne de Radio Val-d'Espire dans les Pyrénées-Orientales. Alors, très motivé pour travailler avec des établissements scolaires depuis quelques temps, pour ne pas dire des années. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain laxisme des établissements scolaires à nous suivre nous-mêmes dans des projets ou proposer des projets ou proposer une éducation aux médias dans les établissements scolaires. Est-ce que la Clémy a un rôle aussi pour inciter ces établissements scolaires à travailler avec nous, radio locale très motivée?
Ah bah oui, bien sûr. Enfin, l'idée au Clémy, c'est notamment de tisser des liens et des partenariats entre professionnels des médias et enseignants et élèves. Oui, bien sûr. Après, voilà, sur des territoires relativement limités, bon, c'est vrai que certains établissements n'ont pas de projet radio. Bon, après, on n'a pas la capacité d'obliger, on essaye d'inciter. La question qui se pose très clairement aussi, c'est la question des moyens. C'est-à-dire que faire intervenir un professionnel... Il fut une époque où c'était possible hein, d'avoir des interventions, entre guillemets, gratuitement. Maintenant, on sait très bien que ce n'est plus possible. Mais aussi, pour les établissements, bah, les temps sont durs aussi. Et certains, tous doivent faire des choix sur l'emploi de leurs ressources. Et sur ces choix, bah, ce ne sont pas toujours les projets autour de la radio qui vont dominer. Hein. Donc, dans la mesure où faire intervenir, par exemple, une radio associative comme la vôtre a sans doute un coût, et c'est bien normal. Après, voilà, les établissements font ou pas le choix de dégager cette somme nécessaire. Et il y a tellement de projets, des fois, en cours, que ce sont des arbitrages qui se produisent. Après, nous, au Clémy, on incite... Enfin, en tout cas, moi, je sais, mon collègue aussi, hein, du Clémy Montpellier... Croyant vraiment aux médias radio, on incite vraiment à travailler là-dessus et à la limite à choisir ce média-là et ce mode d'expression dans les projets qui sont faits en établissement. Maintenant, les établissements sont autonomes et c'est eux qui font leur choix.
Alors, côté financement, ce n'est pas forcément le sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui, les établissements scolaires, quels qu'ils soient, n'ont pas aussi une pseudo-obligation à travailler avec des médias pour la liberté d'expression et d'autres projets, et comment les inciter, pour ne pas dire les forcer, les inciter à leur montrer tout le bon vouloir et tout ce que ça peut leur apporter?
Alors, ils n'ont pas de devoir particulier en la matière, en tout cas, du moins officiellement. Voilà, donc ils font ce qu'ils veulent. Par contre, bah nous, enfin, j'allais dire, on incite. Enfin, voilà, moi, je n'arrête pas de répéter aux établissements que les radios associatives sont vraiment de bons partenaires pour leurs projets. Difficile de faire plus. Maintenant, pour vous, de votre côté, je pense que c'est tout à fait possible aussi de contacter les établissements, très clairement, de passer aussi par le CLEMI. En l'occurrence, dans votre cas, c'est le CLEMI Montpellier. Mais pour ceux qui sont dans d'autres départements, pour info, hein, au CLEMI, donc dans les rectorats, on est encore en anciennes académies, hein, donc anciennes régions, si on peut dire. Donc voilà, on essaye vraiment de faire le relais. Moi, je sais que je tiens à disposition des établissements la liste des radios associatives de la région, que quand certaines radios font des propositions, bah, éventuellement, je les relaie aussi. Voilà, on essaye de faire du lien. Maintenant, ça ne marche pas forcément à tous les coups, bien sûr.
Et depuis 2015, il y a quand même beaucoup de web radios qui se sont créées dans les établissements scolaires, puisqu'effectivement, à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem avait décidé qu'il serait bon qu'il existe un média scolaire dans chaque établissement scolaire. On en est loin, mais par exemple, sur le département de l'Hérault, ça a donné lieu à beaucoup de créations de web radios. Effectivement, c'est là qu'il faut qu'on se rapproche, CLEMI et radio associative localement, pour que les radios que nous sommes soyons des porte-voix, donc des diffuseurs des productions des jeunes dans les établissements scolaires. L'idée, ce n'est pas de passer tout ce qui se fait dans les écoles, parce qu'il y a aussi une obligation de qualité technique et on ne va pas diffuser un truc juste parce que c'est fait par des enfants et que c'est rigolo. Si ce n'est pas propre techniquement, il faut réfléchir hein, à des comités d'écoute, des espèces de conférences de rédaction, tout ça. Mais c'est quelque chose qui manque. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas, nous, associés à des productions d'établissements scolaires que les établissements scolaires ne font pas de la radio. Le souci, c'est que des fois, ils passent par l'équipement technique au lieu de se poser la question de est-ce que je sais faire de la radio ou pas ? Est-ce que je vais être en capacité de produire quelque chose qui sera diffusable ou pas ? Là où nous, on est plutôt sur un objectif de diffusion parce qu'on est des radios.
L'idée, c'est peut-être essayer de trouver des relais dans les établissements scolaires. Je pense que vous avez, au sein des corps enseignants, beaucoup de personnes qui sont disposées à travailler ces médias. Il n'y a pas de doute là-dessus. La question, c'est effectivement de se faire connaître et d'entrer en relation avec des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. Après, effectivement, c'est un travail de longue haleine. Hein.
Beaucoup de documentalistes scolaires aussi, parce que la semaine de la presse à l'école, c'est un moment privilégié pour vous, radio, investir les établissements scolaires pour présenter le média radio et vos équipes de journalistes si vous avez une rédaction. Et du coup, c'est là que se crée souvent le lien, le documentaliste scolaire, c'est lui qui fait ce boulot d'éducation aux médias toute l'année avec toutes les classes, mais ça peut être aussi un prof de français, un prof d'histoire géo, et là, la porte, elle s'ouvre. Et quand la porte, elle s'ouvre, ça donne lieu à des super beaux projets.
En fait, c'est vrai que dans les établissements, vous avez ce relais qui sont les professeurs documentalistes, très clairement. Une piste, ça peut être de... Alors, professeurs documentalistes qui en plus ont l'avantage d'être au contact de tous les enseignants de discipline. Après, voilà, ils peuvent être des relais et les enseignants vont s'emparer ou pas du projet. Ce que vous pouvez faire, c'est effectivement, pour rentrer un petit peu dans les établissements, c'est proposer vous-même voilà, de présenter ce que vous faites, comment fonctionne une radio, d'ouvrir un peu cet univers et en proposant ensuite, si les équipes le veulent, un accompagnement ou une diffusion. Après, à vous de voir avec eux, mais déjà leur proposer ce premier contact et peut-être une première intervention pour présenter, pour leur faire découvrir ce monde-là, tout simplement.
Nous faisons les portes ouvertes pour faire venir les élèves. Faites des portes ouvertes pour faire venir les professeurs.
Bien, on va prendre une dernière remarque, une dernière question du public. Monsieur, vous vouliez parler et après, on passera au suivant, au prochain débat.
Merci. Là, on a vu surtout le côté enseignant, c'est-à-dire le côté éduqué à la radio dans la classe. Maintenant, comment vous mesurez l'impact que ça a après ? C'est-à-dire, est-ce que l'attitude des enfants après a changé en sortant de l'école ? Est-ce que nous, radio, on va pouvoir, entre guillemets, bénéficier de cet apprentissage ?
Ça, c'est impossible à dire. Hein. voilà, enfin, je le dis très clairement. Non, alors, ce qu'on observe, et ça, je pense que les collègues le diront aussi, alors, pas pour tous les élèves. Hein. Vous prenez une classe de 30, vous leur faites faire un projet radio. Certains vont ressortir totalement indemnes. Puis les autres auront appris énormément de choses et se seront transformés. Bon, ça, c'est au cas par cas. Moi, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que faire découvrir la radio aux jeunes, ce sont probablement de futurs auditeurs après, peut-être. Mais encore une fois, ce n'est pas quantifiable et pas prévisible. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Mais encore une fois, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Comment dire, on en attend des résultats à long terme, la découverte de la radio aussi. Et on ne peut pas s'appuyer en fait sur des choses totalement précises et quantifiables. C'est un investissement, on va dire parfois ingrat, parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Moi, je pense que le secret, c'est justement la répétition en fait, des projets, des concepts, des acquisitions, de l'acquisition des compétences. Au bout d'un moment, c'est sûr que si un élève fait un projet radio une fois pendant un mois, deux mois, six mois, dans toute sa scolarité, c'est pas sûr qu'il en reste grand-chose. Si chaque année, dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, il y a un rappel d'un certain nombre de compétences d'EMI, comme on dit, hein, éducation aux médias et à l'information, et qui plus est, si cet élève en question fait plusieurs fois un projet autour de la radio, oui, il va peut-être devenir un auditeur différent, plus averti, plus attentif. C'est possible. Mais pas sûr quelque chose une fois comme ça dans sa vie d'élève.
Éduquer, c'est semer. Donc, c'est être dans l'espérance, c'est-à-dire qu'on travaille sur du long terme. Donc, quand on a des élèves en collège, que seront-ils quand ils seront comme vous étudiants? C'est difficile de le savoir. Par contre, effectivement, donner des principes, donner des idées, ouvrir au discernement, ouvrir, vous le disiez tout à l'heure, au sens critique, essayer de leur faire prendre conscience que ce qui est dit à la radio, ou d'ailleurs en cours, n'est pas neutre. Faire réfléchir d'une certaine façon les personnes, les amener à comprendre que ce qu'ils disent c'est important et ça a du sens, eh bien c'est une mission importante que nous avons en tant qu'enseignants au-delà de l'instruction pure et simple de nos disciplines. Mais pour le quantifier, effectivement, c'est très compliqué. L'objectif, comme le dit le BO, le Bulletin officiel de l'éducation nationale, c'est de former des personnes qui sont en capacité d'être responsables. Eh bien, c'est ce que nous cherchons à faire. Effectivement, le quantifier après, c'est très compliqué.
Quand on débloque des moyens pour faire de la radio avec des enfants, qu'on porte des projets, qu'on obtient des financements, les financeurs, ils demandent le rapport qualité-prix, quoi. Enfin, globalement, ils demandent à quoi ça sert de faire de la radio avec des jeunes et d'évaluer le résultat du travail qu'on produit. Il y a quelques années, je travaillais sur l'éducation nutritionnelle avec des enfants de la maternelle à l'université. Ça va d'une émission sur la recette des crêpes en maternelle jusqu'à bien manger pour pas cher avec des étudiants. Et je me surprenais à faire des questionnaires sur est-ce que depuis l'émission, on mange plus de fruits et légumes, quoi. Et je trouvais ça mais tellement aberrant. Parce que l'idée de changer le comportement du jeune juste parce qu'on a entendu une émission, moi je positionnais juste la radio comme outil de prévention fabriqué par des jeunes pour des jeunes. À aucun moment je serais à ce point prétentieuse pour dire j'ai travaillé avec 10 gamins, grâce à moi, ils mangent 5 fruits et légumes par jour et puis nos 73 000 auditeurs par semaine, ils vont faire pareil. Enfin, à un moment donné, il faut rester modeste, quoi. Pour moi, les objectifs, ils sont surtout qualitatifs, ils ne sont pas après évaluables de façon quantitative à ce point.
C'est aussi une richesse, hein. On est quand même dans un des domaines qui n'est pas ni vendable, ni commercialisable, ni c'est bien ce qu'on nous reproche des fois d'ailleurs, hein, mais effectivement, basé sur, on va dire, l'espoir. Après, honnêtement, moi, je suis persuadée que les résultats, ils sont, j'en suis vraiment persuadée, même si, voilà, c'est très dur à voir de façon sûre et certaine. Mais voilà, c'est un parcours. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un parcours de la toute petite enfance, puisqu'il y a des projets qui se font en école, même en maternelle, jusqu'au lycée, même bien après, hein, au niveau de l'université. D'ailleurs, l'éducation média à l'info commence, est déjà rentrée depuis un certain temps à l'université, donc c'est vraiment un parcours qui commence, bon, qui reste insuffisant peut-être encore, mais qui commence à, franchement, se construire un peu sur du long terme.
Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. C'est la fin de ce débat sur l'éducation média. On passe immédiatement à un sujet.
La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM, et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Support Media et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.